J'ai compris très tôt que le livre allait être une ressource en toutes circonstances. Quand on a un livre, on a quand même une compagnie, de l'évasion, et ça, je trouve ça assez génial aussi.
Perchissime, le magazine audio du Perche. Je suis Amélie Dag et je vous souhaite la bienvenue. Faites-vous partie de ceux qui trouvent triste, voire impensable, de vivre dans une ville sans librairie indépendante? C'est le cas d'Anaïs Leclerc, qui, peu de temps après son arrivée à Nogent-le-Rotrou, a su saisir l'opportunité de créer la librairie qui lui manquait. Fondatrice avec son compagnon de la librairie La Place, elle raconte dans cet épisode l'histoire de ce commerce, nous fait sentir l'ambiance qui y règne et partage ses envies pour sa ville. Bienvenue à La Place et bonne écoute. Bonjour Anaïs.
Bonjour Amélie.
Merci de m'accueillir chez toi, on peut le dire comme ça.
On peut, chez moi, est-ce que c'est chez moi?
Est-ce que tu te sens chez toi ici? Tiens, question vache.
En partie, mais comme ça ne vit que quand il y a du monde dedans, c'est pas du tout comme une maison. Mmh. C'est quand même vraiment fait pour le public.
Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Alors, c'est une librairie. C'est une librairie généraliste qui est située 6 place Saint-Paul à Nogent-le-Rotrou.
Qui s'appelle La Place.
Évidemment, parce qu'elle
est bien trouvée, mon Dieu, je suis fan.
Merci. Alors parfois, on l'appelle abusivement librairie de la place, ce qui m'énerve toujours beaucoup.
Ah oui,
forcément. Donc c'est la place parce que la place Saint-Paul est la place en hommage à Annie Ernaux et à son très très beau livre La Place que j'aime beaucoup.
Tu as ouvert La Place il y a 6 mois à peu près, un peu plus.
Six mois.
Ok, c'était au printemps.
C'était
2024.
Le 26 avril 2024.
Ok. Est-ce que tu peux me raconter la genèse de ce lieu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de créer cet endroit?
Alors en fait, moi j'étais installée à Nogent depuis 2 ans. J'avais quitté Paris assez classiquement. J'étais en congé parental et je m'étais dit en m'installant à Nogent que je chercherais un nouveau travail, justement un nouveau travail, pas quelque chose comme je pouvais le faire en télétravail ou à distance avec Paris, parce que je travaillais dans la culture et que ça aurait pu être possible. Je me suis dit, si tu quittes Paris et que tu vas t'installer dans une autre région, dans un département, dans une ville qui a sa propre identité, où il arrive des choses que tu ne peux pas deviner à l'avance, tu vas justement voir ce qu'il s'y passe, ce qui est intéressant d'y faire et ce qui peut potentiellement répondre à des besoins. Et je pensais pas forcément à l'entrepreneuriat d'ailleurs, mais je m'étais dit, je vais vraiment voir sur place, peut-être que je découvrirai qu'il y a un poste possible pour moi dans un secteur que j'avais pas envisagé. Enfin voilà, c'était très ouvert, mais j'avais pas envie en tout cas de travailler à distance. Et en fait, il y avait une petite librairie à l'époque où moi j'ai emménagé, que je fréquentais, et puis elle a fermé. Et quand elle a fermé, c'est là que le déclic s'est fait. Moi, j'avais pas pensé ouvrir une librairie plus tôt. Et j'étais catastrophée parce que j'avais aucune envie de vivre dans une ville qui n'a pas de librairie. Il me semble, et je vois bien là avec nos clients aujourd'hui, que pour beaucoup de gens, une ville sans librairie, c'est vraiment un signal fort négatif. Ça commence à sentir le sapin quand même. Et puis en plus, ça faisait pas sens parce que Nogent-le-Rotrou, c'est une ville avec des collèges, des lycées, un cinéma, avec donc pas de librairie, pas possible en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce que c'est possible d'envisager un projet de librairie? Et comme j'avais beaucoup travaillé dans la culture et notamment dans le secteur du livre, je me suis dit, je peux peut-être me former à cette partie spécifique du métier et voir si tout est dans le local aussi, hein, quand on veut ouvrir un magasin, si un local vraiment adapté pourrait être disponible. Et dans ce cas-là, allons-y. Et c'est ce qui s'est passé.
17 mois, c'est presque le temps de la maturité. T'as passé deux grosses saisons, pas encore quatre, mais t'as déjà une bonne vue de ce que c'est, en fait. Est-ce que la place ressemble à ce que tu imaginais quand tu t'es dit « pourquoi pas nous » il y a un an et demi, si je comprends bien à peu près maintenant ?
Oui, complètement. En fait, moi, j'avais très envie d'avoir une librairie vraiment généraliste, avec des rayons pour tous les âges et pour tout type de lecteurs, parce que, justement, je savais qu'on serait la seule librairie indépendante à 20 km à la ronde, et qu'il fallait pas se spécialiser, être que pour un seul type de lectorat, ni faire ma librairie à moi, comme j'ai une bibliothèque dans mon salon. Et justement, c'est ce qu'on observe depuis qu'on a ouvert, c'est qu'on a un public nogentais de tous âges. On a des gens qui viennent des villages alentours. On a aussi bien des enfants qui viennent traîner au rayon enfant, choisir leurs livres, leurs mangas. Les ados qui viennent chercher leurs recommandations scolaires. Des personnes âgées qui sont parfois très grands lecteurs, très fans de la grande librairie, par exemple, et qui viennent choisir aussi chaque semaine leurs livres pour le week-end. Le samedi, on a un public plus parisien avec le marché de Nogent.
Vous êtes sur la place du marché.
On est sur la place du marché, ça nous semblait important. Après, je pense que la librairie fonctionne sans ce public-là, mais c'est un bonus appréciable. Je pense que c'est vrai que c'est important pour les commerces de ces petites villes-là de pouvoir toucher un public le plus large possible et aussi le public touristique. Mais c'est avant tout quand même, je trouve, une librairie très très locale. Avec nous, on a vraiment nos habitués. Quand je demande aux gens, quand on fait une fiche client, quand je leur demande leur code postal, la plupart du temps, c'est celui de Nogent le Rotrou.
Quel accueil as-tu reçu ?
Très, très sympathique. Il y a quelque chose de très chouette dans le milieu, je trouve, de la librairie, qui est que ça implique une sorte de courtoisie, j'ai l'impression, de la part des gens. C'est un endroit où il semble rare d'être désagréable, de pas dire bonjour, de pas dire merci. Donc, globalement, du client très sympa. Et les gens nous ont beaucoup dit merci d'avoir ouvert. Ça répond à un besoin. Et donc, c'est très agréable parce qu'on voilà, on se sent remercié pour le travail que ça représente, qui est en effet très important. Et puis, c'est aussi des clients qui n'hésitent jamais à nous féliciter pour la sélection, nous dire qu'ils trouvent ça joli. Et ça, c'est très, très gratifiant, en fait. Ça, c'est quelque chose de très agréable à découvrir. C'est que c'est beaucoup de travail, mais je pense que dans tout travail, on a besoin de gratification en retour. Et le fait d'avoir une clientèle qui est aussi aimable et qui fait des compliments quotidiennement, c'est très gratifiant et ça donne envie de continuer.
Donc, tu le disais, il y a une sélection, tu fais un choix. Ce qu'on peut dire peut-être en aparté, c'est qu'effectivement, la production éditoriale, la production de livres, en fait, est vertigineuse en France. Elle est vraiment, et ça ne s'arrête pas. Ça baisse un peu d'année en année, mais
Ça baisse un peu. Mais oui, alors je ne sais pas si les gens ont ces chiffres en tête, mais si on prend toutes sorties confondues sur une année, qui va tout inclure, des rééditions, des nouvelles sorties, des traductions, etc., c'est 60 000. 60 000, dans une librairie comme la mienne, il y a 7 à 8 000 références. Mmh. Qui, évidemment, ne sont pas toutes sorties cette année.
Ouais.
Donc, 60 000, c'est assez ingérable. Et ces 60 000 titres, pour le coup, ils vont tous nous être présentés mois après mois par la totalité des éditeurs qui les ont fabriqués. Donc, indépendamment des grandes périodes de sortie que sont la grande rentrée littéraire de septembre, les sorties de Noël, la deuxième rentrée littéraire de janvier, les sorties de l'été, etc., il y a de toute façon chaque mois une production pléthorique, tout rayon confondu.
Donc l'un des gros défis et en même temps travaux, on va dire, du libraire, c'est de choisir, de faire
c'est
son
de
choix,
choisir.
De choisir ce qui va coller le mieux à sa clientèle ou à sa cible, en fait.
Oh oui.
Et toi, si tu devais qualifier la sélection que tu fais, qu'est-ce que tu dirais ? Qu'est-ce qu'on trouve ici ? Est-ce qu'il y a une patte particulière ? Est-ce qu'il y a...
Moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer déjà, comme on est justement une librairie indépendante, avec une concurrence de grande surface en face, c'est d'avoir une identité déjà de librairie indépendante. Donc d'avoir des éditeurs qui ne sont pas des mastodontes, d'avoir des collections originales, d'avoir des livres de fond, c'est-à-dire pas la fraîche sortie d'hier uniquement, mais aussi l'excellent livre sorti en 1985 qui gagne toujours à être connu. Voilà, ce genre de choses. Et puis c'est un travail qui implique de très bien connaître les maisons d'édition et leurs différentes collections pour savoir leur faire une place, pour savoir à qui ça s'adresse aussi. Parce que c'est ça, en fait, le fond du travail du libraire, c'est avoir des livres qui s'adressent à chacun et quand on le choisit et quand on le met en rayon, savoir pour qui il est, ce livre-là. Donc, il y a certaines collections qu'on ne fait pas parce qu'on va estimer que c'est de la grande surface, justement, que de toute façon, si on souhaite la trouver, on peut la trouver. Donc, les gens ne sont pas privés. Et il y en a qui, moi, me posent presque un problème éthique. Par exemple, une série pour tout petit enfant, une série de livres pour tout petit enfant qui est déclinée en série d'animation à la télé. Je trouve que ça encourage, sur des enfants très jeunes, la consommation d'écran. Je n'ai pas envie de proposer ça.
Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier qui est nouveau pour toi ?
Alors, ce que je préfère, c'est les discussions avec les clients. Il y a un moment où on a commencé à avoir des retours, des conseils qu'on donne. Et maintenant, ça revient assez régulièrement. Mais les premières fois où on vient nous dire, on nous a même quelquefois, on se promenait, et une dame vient me chercher et me dit « Il faut absolument que je vous raconte tel livre que vous m'aviez recommandé pour ma petite fille. C'est merveilleux, elle l'adore, on n'aurait jamais pensé que ça pourrait lui plaire autant. » Et qui vient vraiment, qui tient à venir me le dire, parce que pour elle, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est pas voilà anecdotique en venant chercher un second livre en disant « Au fait, le dernier était sympa. » On sent qu'il y a vraiment une émotion là-dedans. Et alors, ça, c'est génial. Ça va être aussi quelqu'un qui me dit « Vous m'aviez conseillé tel livre pour une amie sans la connaître, d'après ce que je vous avais dit, et elle l'adore. » Voilà. Globalement, quand on vient nous dire « Le conseil était particulièrement approprié », ça, c'est un plaisir dingue. Et on se dit qu'on a bien choisi son métier, parce qu'on se dit « Libraire, c'est ça quand même, c'est le conseil. Ouais. » Et alors sinon, c'est quand on fait des événements, quand on a fait venir, par exemple, Jeanne Chéral à la librairie, qui accompagnait une formidable autrice pour son premier roman. Et c'était cette autrice qui lui avait demandé de venir. Donc moi, j'étais absolument pas responsable de la qualité de cette soirée. Et là, être dans son lieu, avec les gens qu'on a fait venir devant un spectacle de qualité, là, on se dit « Waouh, je pensais pas qu'en me lançant là-dedans, ça donnerait aussi ce genre de résultat. » Et ça, c'était assez étonnant.
J'aimerais qu'on parle de ce territoire que tu as choisi.
Oui.
Qu'est-ce que, vaste question, qu'est-ce que tu préfères dans le Perche en général ?
Alors moi, je vais te dire un truc qui ne va pas du tout dans le sens du fait de systématiquement parler du Perche, justement. Et du fait que tous nos médias, même si je les loue d'exister, porte la patte du Perche, que énormément d'initiatives pour justement bénéficier de s'inscrire dans un territoire, parce que c'est vrai que c'est un territoire le Perche, et pour bénéficier de la bonne image associée à la marque, on va dire Perche, s'en réclame systématiquement. En fait, je trouve que une partie des villes du Perche et des villages du Perche va bénéficier de cet effet de marque. Parce que qu'ils y sont associés notamment en ligne. On va facilement les trouver associés aux Perches et ils vont avoir cet effet touristique, cet effet joli village grâce à cette ambiance-là. C'est beau, c'est le Perche. Et nos gens le retrouvent ? Eh ben pas du tout. Je trouve que nos gens le retrouvent, qui pourtant est censé pouvoir s'appeler capitale du Perche, n'est jamais cité. En fait, c'est complètement en dessous des radars. on n'entend pas parler des événements spécifiques de Nogent-le-Rotrou, de ce qui se passe dans ces... Alors que c'est quand même une ville, je veux dire, c'est une petite ville, mais c'est une ville relativement importante. C'est clairement la ville la plus importante de tout le Perche. Et donc, on est complètement sous les radars médiatiques. On n'apparaît quasiment pas en ligne. Et je pense qu'on souffre énormément de ça. Moi, je vois avec la clientèle touristique qui parfois me dit « C'est vraiment complètement par hasard qu'on a fini par traverser la ville parce que nous, on venait se promener dans le Perche. » Et voilà, le fait de faire le lien avec nos gens qui pourtant est justement, à l'image de tout le Perche, une ville passionnante, avec un patrimoine, on a une gare, c'est très facile de venir nous voir. On a plein de choses, on a des bons commerces, on a des super restaurants, enfin... Vraiment, ça vaut complètement le coup de venir visiter nos gens. Et le fait d'être toujours ramené à un périmètre, un territoire beaucoup plus large, sans s'inscrire vraiment dedans, je trouve que ça dessert énormément la ville. Alors moi, il y a une balade que j'aime beaucoup faire. Moi, j'habite dans le quartier du Paty, qui est un quartier historique à Nogent. Après, un peu tout Nogent est un quartier historique. Le Paty est un quartier historique parce qu'il y a vraiment des maisons médiévales et qu'on est au pied du château. Et au Paty, il y a des balades assez géniales à faire en grimpant justement vers le château. Mmh. C'est toute une petite colline à monter et la très jolie rue des Marches. Voilà, on va monter petit à petit et où on peut faire une petite embardée sur le côté et découvrir un jardin caché très très peu fréquenté mais public, comme ça à mi-chemin de cette rue vers le château. Et on a, comme on commence à monter, on a un panorama magnifique sur la ville et ses alentours. Il y a un autre chemin en face de chez moi pour monter au château, qui s'appelle Chemin de la Culbute, ce que je trouve très poétique. Et où on fait un petit peu de l'escalade. Faudrait que je pose la question à ses habitants. C'est amusant parce que vraiment on sort complètement du côté ville. C'est en terre avec des arbres et on dirait qu'on fait une petite escalade en forêt. Ça j'aime beaucoup. Et puis on a aussi tout près de chez moi une très jolie balade au-dessus de l'Huisne. Et donc c'est entièrement aménagé pour la promenade, il y a un joli pont, on longe l'arrière du lycée, et voilà, moi je trouve ça très agréable comme balade. On aime beaucoup aller au lac de Margon, qui est très agréablement aménagé, avec des grands jeux pour les enfants. Une grande balade à faire autour du lac, et l'été on peut y manger des glaces. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi? Alors comme commerce, nous on est très très contents d'être situés à côté du Chardon notamment. Je pense que nos gens, avoir un excellent marché le samedi et un magasin de producteurs ouvert pendant la semaine, ça c'est quand même vraiment génial. On est situé, nous la librairie, quand on a visité le local, ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'est qu'on est juste en face d'une artisan fleuriste. Où là tout est travaillé à la main et ce qu'elle fait c'est que elle a toujours toutes ses fleurs sorties sur le trottoir comme une terrasse de café et donc c'est magnifique et je trouvais que ça répondait super bien à une vitrine de livres. Donc voilà, ça c'est juste autour de la librairie et ça fait vraiment partie de nos endroits préférés à nos gens.
Est-ce qu'il y a, je vais carrément franco, mais est-ce qu'il y a des lectures qui, toi, ont changé ta vie?
Des lectures qui ont changé ma vie? Bah alors, à chaque âge, dirais-je. Mais lire Roald Dahl enfant, c'est classique. Je vais faire des réponses assez classiques.
Mais ça me va bien.
Et donc découvrir Roald Dahl, je devais avoir 6 ou 7 ans. Ça a été vraiment décisif, je pense. Je viens d'une famille où on lit beaucoup. Donc en tout cas, moi, il y avait des livres à la maison, c'était considéré comme un loisir de base. Et moi, j'étais tout autant une petite fille rat de bibliothèque qui aime bien lire dans son canapé qu'une enfant qui galope dehors et qui grimpe aux arbres. Donc c'est très compatible, je tiens à le rappeler. Et Roald Dahl, justement, c'était des aventures. Alors déjà, il y en avait plein. Il y avait une dizaine de livres pour enfants de Roald Dahl, tous plus géniaux les uns que les autres. Et Roald Dahl, ça commence toujours par, si on mettait de côté les parents, qu'est-ce qu'il arriverait aux enfants? Alors évidemment, c'est toujours le postulat du conte. Mais là, c'était beaucoup plus drôle. Par exemple, dans Mathilda, voilà l'histoire de cette petite fille totalement surdouée et qui a des parents monstrueux. Le principe, ça n'est pas tant que les parents ne sont pas là, c'est qu'ils sont monstrueux. Donc ils sont terribles, ils ne s'occupent pas d'elle. Comme elle est intelligente et qu'ils sont complètement crétins, ils n'ont aucune connexion avec elle. Et ça, quand on est enfant, c'est quand même jubilatoire. Et puis c'est un art de la narration où quand on plonge dedans, eh bien on ne s'arrête plus et on oublie complètement ses soucis du quotidien, de l'école, de ses parents, de ses copains. On est dans son histoire et ça, donc j'ai compris très tôt que le livre allait être une ressource en toutes circonstances et que ça allait. Moi, je m'ennuie vite. Je m'ennuie facilement, je déteste la solitude, et le livre vient quand même assez facilement combler ce problème-là. Parce que sinon, moi, vraiment toute seule, je sais pas du tout quoi faire de mes 10 doigts, je ne suis pas manuelle, donc voilà, quand on a un livre, on a quand même une compagnie, de l'évasion. J'étais pas non plus une grande fan, après en grandissant, j'étais pas une grande fan de voyage, et en revanche, ouvrir un livre qui a été écrit par un auteur d'un pays, je sais pas, un auteur chilien qui vient nous raconter son pays, qui vient nous raconter son expérience intime dans ce pays-là, sa famille, ses centres d'intérêt, qui inscrit une histoire à un endroit, là, il nous fait vraiment voyager. Je veux dire, on est dans une toute autre dimension que de se promener dans un endroit et de dire « Oh, c'est joli, j'ai mangé un truc exotique ». Voilà, je trouve qu'en termes de compagnie, d'ouverture sur le monde, d'empathie. Il y a un truc avec l'empathie dans les livres qui est complètement fou. Par exemple, je pense que si les femmes ont autant d'empathie pour des gens qui ne leur ressemblent pas, qui n'ont pas du tout les mêmes expériences qu'elles, c'est notamment parce que on a beaucoup grandi avec des livres dont les héros ne nous ressemblaient pas. Les héros pouvaient souvent être des garçons à qui il arrivait plein de choses qui ne pouvaient pas du tout nous arriver. Et donc, ça fait partie, je pense, des choses qui nous ont enseigné à nous mettre à la place de gens qui n'ont absolument rien à voir avec nous. Et ça, je pense que c'est très précieux aussi. Donc voilà, pour moi, le livre est la ressource ultime, la réponse à peu près tous les problèmes de la vie. Et aujourd'hui, je le vois, je vais essayer de ne pas rentrer dans leur intimité, mais j'ai des gens, des clients qui peuvent me demander des choses par rapport à des questions de deuil, par rapport à des questions de santé mentale, et on va vraiment chercher un livre qui aide, et quand je le conseille, je sais que ce livre va réellement aider, enfin qu'il y a toutes les chances qu'il aide, parce que si c'est un livre de qualité, bien écrit, intelligent sur ce sujet, il y a quand même de fortes chances pour que ce livre soit une ressource pour la personne. Et ça, je trouve ça assez génial aussi. Il existe des livres qui sont particulièrement agréables d'accès quand on a déconnecté avec cette habitude qui est en effet un peu à rebours de nos habitudes contemporaines qui consistent quand même à être immobile, ne pas avoir 4 activités en même temps, reposer un petit peu son cerveau, le concentrer sur une tâche précise. Et c'est vrai qu'on est très sollicité à être connecté à plein de choses, à être sollicité sur plein de tâches, à avoir du bruit en même temps. Donc, on peut trouver ça un peu difficile de se retrouver dans ce média qui implique qu'il va y avoir ni bruit ni fureur autour. Ça veut pas dire que ça va pas arriver dans l'histoire, mais voilà, ça peut être quand même assez éloigné de nos habitudes quotidiennes. D'ailleurs, pour les lecteurs, c'est justement parce que c'est éloigné de nos habitudes quotidiennes qu'ils en ont autant besoin. Ça produit au moins autant d'effets qu'une excellente méditation. Justement parce que ça vient déconnecter de tout ce qui nous fatigue et ça vient en revanche nous reconnecter avec tout ce qui nous fait du bien. On retrouve la sensation d'avoir un cerveau, une imagination, une respiration tranquille, des émotions, tout à fait. Il existe des livres, à tout âge d'ailleurs, qui sont particulièrement agréables à découvrir, qui sont des page-turners, comme on dit. Voilà, certains sont écrits comme une bonne série télé, ouais. Et une fois qu'on la commence, on a envie de la terminer, et on peut se surprendre à dire, oh, bah, moi qui n'avais pas lu depuis 10 ans, ou moi à qui on n'a jamais lu quand j'étais enfant, j'aurais pas cru que j'aimerais autant. Et le fait qu'il y ait des histoires aussi prenantes tout en ayant ce côté agréable de, en fait, c'est comme un moment de méditation. Je pense que ça peut tout à fait reconnecter plein de gens à la lecture.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter à toi?
Que ça continue à fonctionner, que ça se développe, que notre territoire soit de plus en plus attractif aussi. Moi, l'important à l'échelle de la librairie, ça va être de continuer à garder cette envie et ce plaisir de choisir justement des livres en permanence, de les conseiller, de les mettre en place. Et moi, ce que j'espère, c'est que, comme justement je trouve qu'on vit dans un endroit qui est extrêmement agréable, qui est très bien adapté au fait d'avoir du temps pour travailler, pour vivre, pour s'occuper de ses enfants, où on peut sortir, on peut bénéficier d'une offre culturelle, on peut rencontrer des gens. Ce que je nous souhaite, c'est que sur cette base-là, que je trouve déjà solide, on puisse continuer à développer ça, mieux le mettre en valeur, parce que justement on ne sait pas toujours que nous avons tout ça à portée de main, que sur les quelques points où nous ne les avons pas encore, je pense par exemple que ce serait super d'avoir un lieu vraiment plaisant pour les jeunes, et je pense pas tant aux jeunes de 18-20 ans qui se connaissent et savent s'occuper que à nos jeunes trentenaires qui n'ont pas d'enfants et qui aimeraient pouvoir sortir et qui en plus sont les actifs qui font tourner notre ville. J'aimerais qu'on sache faire une proposition vers eux pour que la ville leur soit plus agréable. Et donc voilà, tu peux nous souhaiter, je pense, globalement, en France, nos petites villes se développent, qu'on se décentralise. Et peut-être aussi savoir que la ruralité, c'est pas uniquement avoir des grandes maisons sur 3 hectares un petit peu perdues, et puis de temps en temps on prend sa voiture et on va faire des courses. C'est aussi vivre à nouveau dans les villages, dans les petites villes, et en faire des lieux de vie complets.
Je crois que tu voulais me parler d'une animation particulière.
Oui, oui, oui. Alors, maintenant qu'on a testé différents formats d'animation, donc on a fait des rencontres en musique, on a fait de la rencontre auteur où on discute de l'œuvre avec l'écrivain et tout ça. Tout ça a été passionnant et on va continuer à le faire. Mais là, il y a quelque chose que j'ai très envie de proposer parce que je trouve que politiquement c'est un peu le grand sujet qui nous agite depuis quelque temps, le besoin de dialogue, le besoin de dialogue et de débat qu'on a tous, et on manque, je pense, d'espace, de lieu pour discuter. On se retrouve à observer dans les médias des gens qui ont des débats qui sont même plus des débats d'ailleurs, qui sont des batailles rangées où chacun défend son opinion de façon assez violente. Et pendant ce temps, voilà, on n'a pas forcément d'endroits un petit peu citoyens et tout simplement conviviaux où oser discuter de sujets différents, mais de sujets qui nous, voilà, qui nous importent, qui nous touchent, qui peuvent être parfois d'utilité publique, et où on aurait la possibilité aussi de ne pas être d'accord sans s'étriper. Moi, j'adore le débat. J'adore quand on n'est pas d'accord avec moi. Ça me plaît beaucoup. Je déteste l'entre-soi. Je trouve que ça fait partie de notre grand problème des écrans aujourd'hui et de ce en quoi le livre est une ressource, c'est que on ne peut pas rester dans sa bulle d'information, on ne peut pas non plus rester que dans des cercles qui vont toujours dans notre sens, et avoir voilà des lieux ou des moments, en tout cas des événements, où on est invité à écouter, à participer, à ne pas être d'accord, à abonder dans le sens de quelqu'un. Je trouve que ça, ce serait passionnant. Ça me ferait vraiment plaisir de proposer quelque chose dans ce sens-là. Donc là, mon idée, ce sera soit à la librairie, soit si on trouve une possibilité avec la mairie dans une petite salle de spectacle de nos gens. L'idée serait d'avoir une programmation régulière autour des sciences humaines, parce qu'en fait on travaille un petit peu toujours la littérature en librairie avec les venues d'auteurs, et là l'idée ce serait de travailler sur des essais avec des sujets variés, et où on pourrait faire venir un ou des auteurs, des gens qui peuvent être spécialistes de ce sujet dans la région ou militants de ce sujet dans la région, et on pourrait comme ça organiser un débat public avec une participation du public qui serait venu sur un format de soirée, et où je me disais que ça pouvait aussi être quelque chose qui vient animer nos soirées nogentaises. Voilà, donc ce n'est pas encore fait, mais j'aimerais beaucoup qu'on arrive à mettre en place ce type d'événement.
C'est la fin de cet épisode. La librairie La Place est située 6 place Saint-Paul à Nogent-le-Rotrou, et vous pouvez suivre sa riche actualité sur Instagram et sur Facebook, tout comme celle de Perchissime. Je profite de cet épisode pour vous rappeler qu'en France, le prix du livre neuf est le même partout, quel que soit le commerce physique ou virtuel où vous vous le procurez. Merci pour votre écoute et à très bientôt.